Le débrief 100% Coupe de France, spécial d'Yves Cabourg.
Sachez que vous allez rendre joyeux des gens. Si ce soir, on a le bonheur de gagner, c'est toute une ville qui va être en fête. J'habite à Dives et croyez-moi que maintenant, aujourd'hui, quand on va sur le marché le matin, quand on va faire ses courses, il n'y a pas un moment où on ne parle pas du foot. Prenez conscience que vous êtes en train d'écrire l'histoire et qu'elle ne s'arrête pas ce soir.
Et l'histoire ne s'est pas arrêtée le 21 décembre dernier. Elle s'est même écrite. Le SU Dives Cabourg battait les Réunionnais de Saint-Denis sur le score de 2-0. De quoi se qualifier en 16e de finale de la Coupe de France. Performance historique qui surpasse celle de Thomas Lavallée que vous venez d'entendre et de ses coéquipiers qui en 99 étaient battus par Lille en 32e de finale. C'est la première fois depuis 1982 et l'aventure de Lisieux qu'un club du Calvados, autre que le Stade Malherbe Caen, réalise une performance pareille. Le SU Dives Cabourg, club de National 3, soit le 5e échelon national, vit un rêve éveillé. Et nous allons revenir sur ce parcours fantastique. Pour cela, avec moi Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour.
Mais aussi, évidemment, deux protagonistes de cette aventure. Lui est le visage du club, il en est l'entraîneur depuis 1994, c'est Philippe Clément, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et lui aussi est un historique, il dispute actuellement donc sa 9e saison dans les buts de la formation d'Yvèze. Bonjour Maxime Verrier.
Bonjour à tous.
Alors apparemment c'est Max et
c'est
pas
ça,
Maxime.
Ouais.
Donc on dit Max.
On dit Max.
On va dire Max alors.
Pour pas que les auditeurs soient troublés, tu vois, au cas où que... Putain, c'est quoi, il y a un nouveau gardien au SU Dives Cabourg, c'est bizarre.
Alors messieurs, la liste des équipes que vous avez battues pour en arriver là est longue. Yves, Mortagne, Bayeux, Tour-la-Ville, Saint-Lô, l'AS Dragon et donc Saint-Denis. Des anecdotes, vous en avez plus d'une à raconter, c'est parti. Et donc pour débuter, nous voilà donc en 2025. On va d'abord vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année. Et justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année?
Tout d'abord une victoire en championnat dès ce week-end et par la suite d'écrire... une nouvelle page du club. Le livre, on a rajouté quelques pages au livre et il n'y a plus qu'à essayer de rajouter les dorures autour du bouquin.
Ça va être difficile de faire mieux qu'en 2024?
Il est certain qu'on a vécu une année 2024 pleine en intensité, en émotion. D'abord parce qu'on a été chercher un maintien qui n'était pas simple au départ. Et puis on a recommencé cette saison, j'irais par des performances aussi en championnat. Alors ça s'est un peu dégradé sur fin novembre, début décembre. Je crois aussi par le fait d'avoir ce parcours en Coupe de France. Maintenant, on peut forcément pas occulter une telle compétition. J'entends parfois des collègues dire « on met la Coupe de France de côté ». Pour ma part, jamais de la vie, au contraire, hein, surtout dans un milieu amateur où on a besoin justement de sortir du quotidien. Donc oui, ce sera compliqué, mais il y a pas de limite à se donner, encore une fois. Donc 2025, ça peut être aussi un lot exceptionnel d'émotions fortes à partager avec un tas de monde. Comme je disais hier soir aux joueurs, jusqu'à maintenant, on a fait plaisir au club, à nos deux villes, et maintenant on est au-delà de tout ça. Donc il y a le Calvados et puis la Normandie qui est derrière nous. Donc c'est à prendre en compte aussi parce qu'on est fiers de ça et on a envie que ça se perdure, quoi.
Et Max, d'ailleurs, est-ce que ça a influencé un petit peu le programme des fêtes, cette qualification pour le 16e de finale? Est-ce que du coup le repas était un petit peu plus light que les années précédentes?
Je pense qu'au contraire, ça a été deux fois pire. C'est tout le danger d'une qualification et de marquer l'histoire. Mais sachant que le positif attire le positif, c'est pas des choses que je calcule, quoi.
D'accord, ok. Et toi, Philippe, est-ce que tu t'es lâché aussi un peu, du coup, à l'image des joueurs?
On s'est lâché après le 21, c'est vrai, décembre, hein, puisque ça arrivait très proche de Noël. Donc j'avoue qu'on est plus fatigué à Noël que d'habitude. Derrière ça, on s'est, pour ma part, bien reposé, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas 30 ans. Donc jusqu'au jour de l'an, et après, je suis parti 4 jours m'aérer l'esprit, à vrai dire, à la neige, voilà, avec ma femme et ma fille. Et j'avoue que ça me fait du bien, parce que c'est sûrement le dernier week-end. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Ça voudra dire que on a des week-ends pleins en coupe et en championnat, ouais.
Jusqu'au mois de mai, quoi.
Éventuellement. Ouais. Ouais. Bon, avec plaisir.
Je signe tout de suite. Voilà. Je réserve ma chambre auprès du Stade de France. On sait jamais. Ça peut servir. On va avant d'aborder forcément ce fameux match contre le Puy, hein, qui aura lieu le mardi 14 janvier. Du coup, on va forcément revenir un petit peu sur votre parcours. Certes, Le Puy, ce sera le premier adversaire hiérarchiquement supérieur que vous allez affronter. Mais il y a eu beaucoup d'histoires tout au long de votre parcours. Hein. Ça a été jalonné de pas mal d'anecdotes. On se rappelle ce match à Bayeux qui a interrompu à la mi-temps avec cette patte d'éclairage. C'est quand même pas commun. Vous qui avez pas mal de vécu, je crois que vous aviez jamais vécu ça dans votre carrière. Max, t'es d'accord? Pas de souvenir d'avoir vécu quelque chose de similaire?
Non, dans mon parcours, c'est jamais arrivé. Premier atout.
C'est ça. Bah, ce sera marquant du coup si ça correspond peut-être à une qualif en huitième de finale de
Coupe
de France.
Oui, on remerciera les techniciens de la ville de Bayeux. Ça, pas de problème.
Et je voulais savoir, dans votre parcours du coup, c'était quoi le souvenir le plus marquant que vous aviez jusqu'à présent? Alors ça peut être un match, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport au match ou quelque chose en rapport à ce parcours. Philippe, qu'est-ce que tu retiens toi de ce parcours jusqu'à présent?
Pour ma part, oui, le match de Bayeux, parce que bah, tu te qualifies en jouant qu'une mi-temps. Alors Max, il a la mémoire courte parce qu'on a vécu ça quand même. Alors ça avait pas été au bout de la sorte, mais à Borgo,
Max s'en souvient. Ça y est, la mémoire fonctionne.
À Borgo, une équipe archi favori, voilà, en 2017, hein, le fameux périple qu'on a eu à faire pendant avec 20 000 km dans le groupe Rhône-Alpes-Corse, et puis comme par hasard, on mène 1-0 et une panne de courant à la 70e. Bon voilà, ça s'excite un peu du côté des Corses. Nous on est un peu surpris à vrai dire, juste derrière ils égalisent. Bon, je pense qu'il y avait un rapport à tout ça. Et bon, notre grand Ravenel malgré tout marque et on gagne 2-1. Ça a été chaud, mais ça nous a pas empêché de boire un coup avec eux après. Hein, mais j'avoue qu'on a découvert la Corse ce jour-là réellement. Et pour revenir à nos anecdotes Coupe de France, non, moi j'en ai une qui est exceptionnelle parce que je pense que la Coupe de France justement c'est ça. C'est un match à Mortagne. Je cherche un restaurant et je trouve un restaurant par le biais du coach de Mortagne que j'ai connu parce que j'ai passé mon B1 avec lui, je crois, à l'époque. Et on tombe sur des gens d'une gentillesse exceptionnelle, notamment au téléphone. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je leur disais que c'était 2 euros la collation, ils étaient tellement fiers de nous recevoir. J'ai trouvé ça assez magique. Et de ce fait, je m'étais dit, bon, tiens, je vais leur emmener un petit présent parce que j'ai tellement été attaché, j'irais, à la gentillesse du coup de fil, que je suis allé là-bas avec une veste de survêt et un maillot de Coupe de France. On a été reçus, alors là, quand je suis arrivé là-bas, donc c'était un Portugais et sa petite femme adorable. Donc je vous avoue que c'était une collation,
frugal.
Très copieuse.
Pas propice à courir derrière.
Voilà, non, avec des crêpes, des omelettes.
Ah oui,
la nuit, là, et puis pour bien faire, moi j'en ai certains qui.
Le fameux régime de Noël, forcément.
Voilà, de l'Orne, donc vous avez bien soigné.
Attention, ça sentait le piège en fait, cette histoire-là.
Ouais, mais après coup, non, je pense pas que ce soit un piège, c'était vraiment l'envie de faire plaisir. Et donc moi je lui ai offert une veste de survêtement de Div et puis un maillot de Coupe de France, mais je lui ai dit que je lui donnerais qu'à la fin, puisque ça faisait crâneur que de lui filer avant, dans le sens où on ne l'avait pas encore gagné ce maillot, donc voilà. Et donc j'ai dit on repassera après le match quoi qu'il advienne. Donc on est revenu après le match et là ils nous avaient fait un buffet d'exception, voilà, il a sorti les bouteilles, enfin je crois qu'il était bientôt plus heureux que nous, et j'avoue que ces deux personnages-là nous suivent encore sur les réseaux. Là, j'ai reçu les bons vœux. Enfin, voilà, on est tombé sur des gens fantastiques. Et c'est pour ça que j'entends tout le temps dire du mal du monde en général aujourd'hui. Bah, il y a encore de la place à de l'humanisme. Et moi, c'est ce que je retiens. Parce que parfois, les pros aussi vous reçoivent comme il faut, des amateurs. Bah, nous, ce jour-là, on avait l'impression d'être un statut un peu de pro. Mais on s'est comporté comme des amateurs et face à des amateurs. Et ça a été une belle fête, ouais.
D'accord, donc c'était lors du quatrième tour, hein, cette saison, on est d'accord.
C'est
hein,
ça, c'est ça, parce que IF, le premier tour.
C'est ça, IF, et donc quatrième, Mortagne, du coup.
C'est ça.
Le fameux tour des maillots, c'est pour ça que tu fais aussi référence à Scocco. Pour ceux qui ne savent pas, quand on atteint le quatrième tour, on a le droit aux maillots de la Coupe de France.
C'est ça.
Qui sont très prisés des footballeurs amateurs. Voilà, même si quand on est en N3, peut-être qu'on a plus l'occasion d'aller régulièrement au quatrième tour. Mais en général, c'est toujours quelque chose qui tient à cœur aux footeurs régionaux.
Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que le district, leur finale, c'est le quatrième tour. Ils reçoivent des maillots voilà, qui sont de base inespérés, puisque tu as quand même le premier, le deuxième, le troisième. Tu as 3 tours à passer avant d'arriver à ça. Et ce que je disais aux joueurs à Bayeux, notamment, comme quoi nous, notre finale, il fallait que ce soit en 32e. Quoi. Et ils m'ont écouté.
C'est bien. Hey, ils écoutent le coach. C'est une bonne chose.
Beau, hein.
Max, est-ce que t'as aussi un souvenir lié à ce parcours en coupe?
Bon, ça va être assez similaire à Philippe. Hein. La manière dont on a été reçu effectivement à Mortagne au Perche, c'est plutôt rare. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir été aussi bien reçu, mais surtout avec beaucoup de simplicité. Alors au-delà de la collation gargantuesque, je crois que j'ai pas d'autres termes, qu'ils nous ont proposé, ils étaient vraiment, comme disait le coach, très heureux, très sympa, très simple. Et d'ailleurs, je crois qu'on est reparti un peu tard là-bas.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Il vous a marqué. Hein.
On voulait leur rendre ce qu'ils nous ont offert et on leur a bien rendu.
Ils ont gagné des clients. Ils ont gagné des clients.
Rien laissé.
On parle du coup un peu de cet esprit de la Coupe de France. On dit toujours que c'est une des plus belles compétitions, qu'elle procure des émotions particulières. Est-ce que pour vous c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle a de différence, cette compétition?
La différence, c'est que c'est une compétition à élimination directe, et c'est une différence où tu joues des équipes hiérarchiquement soit inférieures, soit supérieures. Donc la magie de la Coupe de France opère, puisque tu peux jouer des fois une équipe et la battre, et puis tu la joues 100 fois, tu la battras qu'une fois. Mais c'est ce fameux jour-là, tu sais pas pourquoi, hein, comme je répète souvent à mes joueurs encore hier soir, et ça fait déjà un bout de temps que je le répète, une R3 qui est menée 2-0 par une Ligue 2 et qui gagne 4-2, c'est inexplicable. Ils se sont pas fait opérer des pieds à la mi-temps. Ils se sont pas dopés. Il y a une magie, hein, qui a fait que des garçons de 6-7 divisions inférieures viennent à battre des professionnels alors qu'ils sont menés. En plus, on n'est pas sur des scénarios où c'est un but à l'arrache. Et ça, une fois qu'on a compris ça, en plus c'est Clermont qui est battu, qui était en Ligue 2, et Clermont avait fait le coup au PSG 8-10 ans avant aussi, en étant mené 4-1 à 18 minutes de la fin. Ils font 4-4 et ils gagnent au pénalty. Donc une fois que t'as compris ça, tu sais que même quand tu mènes, bah t'es pas à la rue, et même quand t'es mené, t'es pas fini. Et donc voilà, moi c'est pour ça que j'adore cette compétition, et parce qu'on emmène du monde. Moi j'ai des images en tête il y a 25 ans, mais il y a aussi 30 ans, enfin 27 ans quand j'étais à Vire en 32e. Cette année, quand je vois les joueurs, ce qu'ils ont pu procurer à des gamins, le papa de Max qui pleure. Voilà, moi des gamins derrière moi, en plus j'étais suspendu, et des anciens que j'avais pas vu depuis longtemps qui étaient au bord des larmes. Ça, c'est des sensations qu'on trouve pas ailleurs, parce qu'il y a pas de rattrapage, quoi.
Et Max, vous avez déjà vécu quelque chose d'aussi fort que après le coup de sifflet final et cette victoire contre Saint-Denis?
Non, très concrètement, j'ai pas de souvenir footballistique qui me semble aussi fort, mais parce que c'est un contexte général, hein. Quand les trois coups de sifflet sont sonnés à Saint-Denis, bon, déjà contre les Dragons, malgré ce qu'on en dise, j'ai trouvé ça déjà fort. Après Saint-Denis, c'était, on écrivait une nouvelle page du club, et donc là, c'était à ce moment-là, moi, dans ma tête, enfin, tout s'était arrêté. Un peu, j'étais un peu déconnecté. Un peu déconnecté parce qu'il y avait trop de ressentis sur le côté de la main courante. Et effectivement, il y avait sur une même lignée de 10 personnes, il y avait 10 émotions différentes entre, comme disait le coach, on pouvait voir quelqu'un qui avait les larmes aux yeux, un autre qui était totalement euphorique. c'est justement. Quand Philippe parle de compétition totalement irrationnelle, bah, c'est aussi le cas dans les émotions. Donc du coup, non, je n'ai jamais eu un sentiment footballistique aussi fort.
Et qu'est-ce que t'as fait du coup de voir ton papa pleurer? Est-ce que tu l'avais déjà vu pleurer pour un match de foot dans lequel tu étais l'un des principaux protagonistes?
Non, pareil, je crois pas avoir eu le souvenir. Non, j'avoue, c'est marquant parce que du coup la figure paternelle on a toujours l'image un peu on va dire un peu machi, je sais pas si c'est le terme, mais un peu forte de se dire le papa il pleure pas, et là ça, on se dit bon c'est que du foot.
T'as réussi à le faire.
j'ai réussi à le faire.
C'est bon, je vais prendre ma retraite.
C'était la dernière fois aussi.
T'aurais pu le faire dans le bac.
Ouais,
mais
ouais, c'est ça. Ouais. Non, je pense qu'il a dû pleurer en secret en voyant mes bulletins. Et là, du coup, c'était pour une bonne raison.
Mais il a eu quand même quelques motifs de fierté quand même. T'en as fait un grand-père, si je me trompe pas aussi.
C'est
pas mal. C'est pas football, mais c'est quand même pas mal niveau émotion.
C'est une fierté supplémentaire. Et puis, un an de différence. Une qualif en 16e et un pécho.
Ouais.
Bah, pas du mal, coup, hein. Pourvu que ça dure, peut-être faire le 2. Enfin, maintenant, c'est ou 8e ou un 2e.
tu t'arrangeras avec ta compagne. Hein, on veut pas mettre le bazar dans le couple.
On va négocier.
C'est ça.
Et puisqu'on parle du coup du côté émotion, l'émotion se transmet aussi par la causerie d'avant-match. On vous fait écouter un extrait d'ailleurs de vos propos avant ce match contre Saint-Denis, Philippe Clément. On écoute.
Tant que c'est pas sifflé, t'as rien fait. Par contre, à contrario, si vous êtes mené, je veux pas voir un seul homme abandonner. La faiblesse de l'homme, l'abandon. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Souvent, la défaite, seul l'abandon est une défaite. Seul l'abandon est une défaite.
Max, qu'est-ce qu'on ressent quand on entend son coach parler comme ça avant un match?
Moi, ça fait 9 ans. Donc, ça fait 9 ans que j'entends parler comme ça. Alors, on pourrait croire qu'il y a une certaine lassitude, mais j'apporte. Enfin, c'est pas moi qui apporte, c'est le coach arrive à apporter aux joueurs autant d'attention sur un match de championnat qui peut paraître pas anodin, mais courant, où il n'y a pas spécialement. On ne peut pas spécialement être mis en alerte par rapport à un contexte. Là, effectivement, la Coupe de France, ça rajoute un peu de sel et de poivre et un peu de piment également. Mais de manière générale et de manière totalement personnelle, moi, c'est... dans le discours, je suis... il arrive à me motiver dans tout contexte. Et bon, pour un 8e de finale, je pense qu'il aura pas. Pour un 16e de finale, je pense qu'il aura pas besoin de parler beaucoup, parce que là, ça dépendra que de nous. Je pense qu'il nous a plus mis en alerte et il a été deux fois plus prévenant, justement, sur les tours qu'on a évoqués, comme Ifs, Mortagne, Bayeux, où on aurait pu potentiellement. À cause ou grâce à cette compétition passée à la trappe.
Ah, parce que le danger, il est là, en fait.
Bien sûr.
Parce que là, vous avez réussi avec brio à vous qualifier pour les 32e, pour les 16e, mais entre guillemets, ça serait pas non, personne vous aurait voulu non plus de pas vous qualifier, notamment au tour précédent. Je veux dire, c'était une très belle opposition Saint-Denis en face. Par contre, forcément, ça reste un petit peu en travers de la gorge si on se fait toper au 4e tour à Mortagne ou au 3e tour à Yves, surtout quand on voit. Sur quoi ça peut déboucher? C'est impossible forcément peut-être de se projeter. Peut-être que Philippe quand même un petit peu, tu parviens de projeter parce que t'as connu ça à plusieurs reprises en tant que joueur et en tant que coach. Mais c'est maintenant on se dit bah oui, c'est là qu'il faut faire les efforts parce que ça aboutit quasiment 5 mois plus tard à un très beau cadeau quoi.
Bah c'est pour ça que Max a complètement raison. C'est-à-dire que moi je suis très prévenant sur les premiers tours. Je crois que c'est là le gros du travail d'un coach pour la amateur, pour la compétition, notamment en N3. Ces 3e, 4e tours, 5e sont piégeux. Pour ne citer que Alençon est éliminé par une R2, Flair est éliminé par une R2. Et nous, à chaque fois qu'on passait une R3, une R2, une R1, bon, ça paraissait logique à tout le monde. Et moi je savais très bien, et d'ailleurs je les félicitais très fort à chaque fois, comme quoi j'étais fier qu'ils passent le tour. C'est pas le fait de battre une R2 ou quoi, c'est de passer des tours, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, puisque moi combien de fois on m'a dit mais tirage, qu'est-ce qu'on t'en pense, c'est un bon tirage quand même. Je sais pas dire ça avant, ce serait tellement manquer de respect à l'adversaire, on se met tout de suite en danger en pensant ça, parce que déjà il y a l'inconscient qui travaille, l'inconscient qui nous amène à malheureusement balayer la conscience comme quoi ça va être dur. Donc non, faut être très très comment ça s'appelle prudent. Pour pas se faire éliminer, ouais.
Alors, vous avez évoqué le tirage, donc on va parler de ce fameux tirage au sort. On écoute vos propos, Max, quelques secondes après le coup de sifflet après le match contre Saint-Denis et donc votre qualification pour les 16e de finale. Vous évoquiez déjà le tirage au sort.
Voilà, il faut un gros maintenant, faut aller à Dordano, faut faire 20 000 fois. Chaque amateur de la région cannaise rêve de ça. Et bon, bah demain, on sera forcément devant le tirage. On espère que ça sera un Cador qui joue l'Europe. La boucle sera bouclée pour un parcours d'amateur. Ça sera génial.
Alors du coup, vous vouliez un Cador qui joue l'Europe. Bon, finalement, ce sera le Puy Foot 43, une équipe qui évolue une division au-dessus de la vôtre en National 2. C'est forcément un peu moins rêveur. C'était quoi votre réaction après le tirage au sort?
Alors, on était... Mathieu, t'étais là. On était chez le coach. J'avoue qu'il y a eu un peu un silence de cathédrale. Mais d'un Cador de l'Europe, j'espérais à titre personnel, mais on va tomber sur un Cador de N2 qui, quelque part, ne vit pas le football de la même manière que nous. La National 2, dans leur effectif, il y a 14 contrats fédéraux. Donc c'est potentiellement des joueurs qui ne vivent que du foot. Je suis pas là à leur cracher dessus et à leur dire que c'est pas bien. C'est certainement un club qui se donne les moyens de ses ambitions. Et il faut, je pense, à mon sens, rappeler que la différence entre la N3 et la N2, c'est la passerelle entre l'amateurisme et le semi-professionnalisme. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mecs qui aillent au Chagrin le matin, qui aillent au Turbin, comme nous on peut le faire actuellement. Eux, leurs armes actuelles, c'est la récurrence de leurs séances. Donc sur un plan athlétique, ils risquent, et c'est fort possible, d'être un cran au-dessus. Nous, il va falloir qu'on cède de nos armes, de nos quotidiens à chacun pour aller chercher des ressources supplémentaires.
Et vous, coach, quelle réaction après le tirage au sort ?
Bah, la réaction collective à la maison, c'était les joueurs, quand on a été tirés les premiers, c'était l'euphorie. Donc, et ils ont eu raison, parce que s'il aurait fallu aller jouer à Cannes ou à Bourgoin
ou au Puy,
j'avoue que là, ça aurait été très compliqué.
C'est pas le même délire.
Non, puis dans l'organisationnel, c'est forcément différent. À titre d'exemple, eux viennent avec deux petits avions. Nous, on n'aurait pas pu aller en avion, ça c'est une certitude. Donc il y a eu de la déception après au tirage quand c'était le Puy, mais ce qui peut apparaître logique, hein. J'avais trouvé illogique quand ils avaient crié de joie pour Saint-Denis parce que c'était marqué R1. Sauf que moi je savais que c'était tout sauf une R1, donc j'étais colère, je les avais fait taire, et là je disais, bon, j'étais pas colère contre eux, je comprenais leur réaction, parce que quand on est en 16e, on se dit, tiens, pourquoi pas jouer un très gros d'Europe, comme l'avait dit Max après le match. Mais après coup, moi très vite, avec mon âme de compétiteur, je me dis, attendez les gars, vous avez aussi peut-être une possibilité, parce que tu joues le PSG à Dorano, bon, t'as quand même pas grand chance d'aller en 8e. Quand tu joues le Puy chez toi, avec tout le respect que j'ai pour eux, puisque c'est une équipe très très performante, tu as l'occasion, enfin l'historique de la Coupe de France nous amène à avoir beaucoup d'espoir, moins leurs statistiques, puisque voilà, c'est une équipe qui est très costaud, qui a perdu qu'un seul match depuis le début de saison, qui a pris que 5 buts en championnat, donc c'est dire, déjà leur mettre un, c'est un exploit. Et voilà, maintenant il n'y a pas de surhomme, on n'en est pas, ils n'en sont pas, et tout est jouable, mais il faudra, comme le dit Max, c'est-à-dire faire appel à d'autres qualités que les qualités intrinsèques seulement au football, puisque dans ce cas-là, je pense qu'ils sont meilleurs que nous. Mais si on a un mental à toute épreuve et qu'on n'écoute pas notre corps, mais qu'on écoute notre esprit, on peut aller au-delà de 95 minutes et faire ce qu'il faut, quoi.
Alors, juste avant d'évoquer la préparation de ce match, je me permets une parenthèse pour présenter un peu plus largement votre adversaire de ce 16e de finale. Donc le Puy-en-Velay, c'est une équipe, on l'a dit, qui évolue actuellement en National 2, mais qui était en National il y a 2 saisons, et qui sait surtout se faire remarquer en Coupe de France avec un 16e de finale déjà en 2023, perdu au tir au but, et même surtout un quart de finale l'an passé qui s'est soldé par une défaite face au Stade Rennais. Le Puy Foot 43 joue les premiers rôles en ce moment dans sa poule de National 2, et du coup, pour vous, c'est la première fois que vous allez affronter, on l'a dit déjà, une équipe qui évolue à un niveau supérieur au vôtre dans la préparation. Qu'est-ce qui change pour vous ?
C'était pour vous remonter le moral, là, la petite présentation. C'est, voilà, c'est pour être, pour être sûr.
Vous pouvez répéter la question.
C'était quoi, alors, en termes, est-ce que ça change quelque chose en termes de prépa ? Que ce soit Le Puy ou Saint-Denis, enfin, ou,
ce qui change forcément, c'est le laps de temps très court qu'on a entre notre match de samedi en championnat et le match de Coupe de France mardi. Je pense que la préparation, elle est la même de leur côté. Ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner 3 matchs.
Parce que eux aussi jouent un match de championnat en N2.
Vendredi. Ils jouent vendredi. Mais alors après, est-ce qu'on doit se cacher derrière 24 Est-ce qu'on doit se cacher derrière 24 heures de récup? Je suis pas sûr. Pour en revenir à la préparation, pas sûr qu'il faille
changer quelque chose.
Ouais, parce que justement, enfin, c'est en voulant se préparer différemment qu'on fera certainement les choses différemment sur le terrain. Enfin, il faut vivre ça comme une belle fête et surtout jouer sans pression. Enfin, quelque part, faut prendre ça comme, si on prend d'un point de vue papier type, il y a qu'un niveau d'écart. Faut prendre ça comme un gros match de championnat. Il y aura un peu plus de monde et les maillots seront juste différents que notre pain quotidien qui est le championnat N3. Et on espère de tout cœur qu'on puisse emmener le public avec nous et emballer ce match, quoi.
Philippe, oui, est-ce que le coach que tu es l'aborde sous un angle différent? Alors, on va rappeler quand même cette particularité, hein, c'est que vous jouerez en semaine pour la première fois de la saison. À partir des 16e de finale, les matchs de Coupe de France sont en semaine. En plus, pas trop de chance au tirage. Vous jouez un mardi. Vous auriez pu jouer un mercredi ou un jeudi. Et du coup, forcément, ça fait peu de temps après pour préparer le match en tant que tel. Par rapport à l'AS Dragon ou Saint-Denis, vous avez eu la semaine complète pour vous préparer.
Oui, alors c'est compliqué pour un club amateur que de jouer un mardi voire même un mercredi. Et là, qui plus est, parce qu'on joue Chatou en plus trois jours avant, donc ça pose un réel problème de récupération. C'est pour ça que j'ai demandé aux joueurs, contrairement à d'habitude, puisque je les flique pas à vrai dire, hein, ce sont des amateurs, mais d'avoir vraiment une grande rigueur et une vraie discipline, c'est sur la récupération, parce qu'à partir de samedi soir, le match finit à Chatou. Bon, si malheureusement ils vont perdre du sommeil en boîte de nuit samedi, ils arriveront pas à le récupérer pour mardi. Et ça, franchement, faut être très à cheval là-dessus. Autant ils auront le droit de se libérer mardi soir après le match s'ils veulent, mais là je pense que le sommeil va vraiment être prépondérant, et c'est ce qu'on appelle une séance invisible, mais elle est très très importante. Donc là, il va falloir être très vigilant par rapport à ça. Après, oui, le club amateur qui joue à mardi, bah c'est compliqué. Normalement, c'est la fête du football amateur, hein, la Coupe de France, et à l'arrivée, bah même les gamins, les U6, les U7 peuvent pas venir vous voir un mardi soir, donc c'est bien dommage. Mais a priori, si j'ai bien compris, c'est la Champions League qui pose problème, donc maintenant ils ont mis ça en semaine.
Oui, alors effectivement, il y a deux tours de
plus. Donc on revient toujours à l'élitisme, hein, forcément, et à l'économie et au pognon, mais ça, c'est faut faire avec. De toute façon, nous on décide de rien. C'est les télés qui nous disent soit tu joues à 15h, soit tu joues à 20h45. Après, on est très content de passer à la télé, donc on va rien dire. Et après, pour la question sur le fait que c'est vrai que c'est une équipe hiérarchiquement supérieure, et c'est la première fois que c'est le cas, tout au moins sur le papier. Franchement, j'ai un respect profond, et je sais qu'une N2 en pleine bourre qui vous respecte, comme c'est le cas là, des fois vaut mieux jouer une Ligue 2 qui vous snob. Et ça, je le pense vraiment très fort. Maintenant, il y a aussi la phrase où on va dire bon, on n'a rien à perdre. Alors moi, c'est la phrase que je supporte pas, puisqu'on a tout à perdre, puisqu'il y a un huitième de finale de Coupe de France, c'est-à-dire que on est quand même très très proche de la finalité de cette compétition, et je vois pas comment on peut dire j'ai rien à perdre. Donc on a tout à perdre autant que le puits. On doit se donner les moyens de ça, et malgré qu'il y ait une division d'écart, de toute façon c'est surtout un 16e de finale de Coupe de France qu'on joue, donc c'est pas une question d'adversaire comme au troisième tour, c'est vraiment ceux qui ont envie d'aller au 8e, quoi.
Est-ce que concrètement vous auriez préféré tirer une équipe de Ligue 2 qu'une équipe de National 2?
Oui, je l'ai dit aux joueurs, mais je le pense vraiment, parce qu'une Ligue 2 peut... Trois jours après, la Ligue 2, elle est dans un stade de 15-20 000 personnes. Donc, ils oublient très vite la Coupe de France, les pros. Je parle des vrais pros. Ceux qui ont un statut de contrat fédéral, c'est différent, puisqu'ils se retrouvent pas dans un stade de 20 000 trois jours après. Hein. Ils vont se retrouver à Istres ou à Martigues, ou pas Martigues, mais à Toulon, il y a 500 ou 800 spectateurs, c'est pas la même. Des pros peuvent peuvent, avec l'inconscient aussi, des fois vous snober et avoir de la prétention. Et dans ce cas-là, ils sont dans l'échec. Une N2 qui vient avec deux petits avions et qui a l'occasion de passer en huitième de finale et qui a déjà connu les quarts de finale, ils savent combien c'est bon, et quand on sait que quelque chose est bon, en général on y retourne. Hein, c'est un peu comme sur un bon plat ou je pensais que j'allais dire une gonzesse.
Max, t'as une remarque à faire s'il te plaît. Je voulais ça. Voilà. N'hésite pas à prendre la parole.
Ce sera forcément très dur, mais on n'a pas le droit de pas y croire, quoi.
Est-ce que on peut considérer, moi je le considère ainsi, que ça serait un exploit si le SIDIF Cabourg passait ce tour-là, compte tenu de l'adversaire, que de tout ce que vous venez d'expliquer, que quand même bon, il y a une division, mais c'est pas n'importe quel club de N2 qui vous semble vous prendre très au sérieux et prendre au sérieux cette compétition, compte tenu des conditions de déplacement dans lesquelles ils viennent. Est-ce qu'on pourrait parler de véritable exploit?
Oui. Pour moi, là, c'est vraiment un exploit, parce que ce sont des joueurs qui ont un statut différent de nous et une préparation différente de nous. Donc demain, on aurait joué une N3 ou une N2, mais une N2 par exemple, réellement amateur, avec quasiment pas de contrats fédéraux, tu te dis bon, bah ils font comme nous, hein, ils bossent, et puis il y a juste une division. Là, c'est différent, c'est des mecs qui sont conditionnés pour jouer au foot et qui ont encore l'espoir de passer chez les pros, parce qu'en plus il y a pas mal de joueurs.
Ils en reviennent.
Ils sont passés très proches. Donc voilà. Oui, on peut parler d'exploit parce que de toute façon, quand on regarde les stats, bon, ils ont perdu une fois, ils ont pris 5 buts en championnat, ils exposent tout le monde en Coupe de France, même Montpellier 4-0, donc c'est dire quand même.
Au tour d'avant, en voilà, 32e de finale. Voilà.
Et l'année dernière, ils sont battus par Rennes, je crois que c'est 1-0. L'année d'avant, ils sont battus au pénalty. Enfin voilà, ils sont amoureux de la Coupe autant que nous, j'espère qu'on le sera encore plus qu'eux. Mais oui, pour moi, on peut parler d'exploit. D'abord parce que tu vas en 8e. Ça c'est une première chose, et parce que tu bats un ténor de la N2, hein, qui est un niveau de N1,
avec un gros passif.
Faut être objectif. Voilà.
Ouais. Max, tu partages le même point de vue que le coach?
Oui, bah c'est assez simple. Hein. Nous, on joue au foot et eux, ce sont des footballeurs. Hein. Je pense que c'est assez bien résumé. Je vous ai exposé mon point de vue tout à l'heure en début d'émission. Comment dire très clairement, le football est leur quotidien. Nous, ça fait partie de notre quotidien.
J'ai juste une petite aparté, depuis tout à l'heure on parle de contrats fédéraux, pour ceux à tout hasard qui ne sauraient pas ce que c'est. Du coup c'est qu'en fait les footballeurs du Puy, ils ont un contrat de travail qu'on appelle contrat fédéral, et donc ils vivent de leur activité football. Oui. Ils sont pas considérés comme professionnels car ils ne signent pas de contrat professionnel, oui. Mais tous les jours leur boulot en fait c'est de s'entraîner, donc ils s'entraînent en journée.
Pour jouer au football.
Exactement, et donc ils touchent forcément un salaire par rapport à ça. Donc souvent on parle du statut semi-pro, mais dans les faits en fait ils vivent de leur activité foot, donc en fait ils s'entraînent tous les jours.
Ce qui est magnifique.
C'est très bien pour eux. C'est aussi un objectif de plusieurs footballeurs 100% amateurs eux de la région ou d'ailleurs. Mais c'est pour dire un petit peu la.
Oh, ça fait 9 ans que j'attends.
Un appel. Je suis désolé, on n'a pas invité le président. il fallait savoir, on a invité que le coach. T'aurais dû m'envoyer un texto avant.
Sur ce que tu viens de dire, Mathieu, on a vu les séances, hein, c'est 10h30, 16h30 pour eux. Moi, j'ai, je vais pas le citer, mais j'ai un joueur qui est prof de PS et qui s'entraîne que le vendredi, par exemple.
Ouais, bon, on peut le citer, c'est Aurélien, voilà, Aurélien Torres. Hein,
alors, ça l'empêche pas d'être excellent. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il joue, parce que sinon, je jouerais pas. Mais, et par contre, il est très sérieux de son côté, mais. Ah voilà, c'est une préparation différente, quoi, parce que les statuts sont pas les mêmes.
Voilà, c'est la rencontre de deux mondes un petit peu différents.
Mais c'est pas pour autant.
C'est
que...
aussi le charme de la Coupe de France.
Ouais, voilà, exactement. Il faut pas se trouver d'excuses si tu commences à dire ouais, mais bon, ils ont tellement plus de confort, aucun intérêt.
Bon, bonne nouvelle pour vous, Philippe, vous serez sur le banc pour ce match.
Ça dépend.
Un match avant à Chatou.
Si Chatou est reporté pour conditions météorologiques, on aura encore Julien Le Pen.
Non.
Non. Même pas ?
Bah non, parce que je suis à Chatou sur le banc.
Oui, mais si on joue pas ?
Ah, c'est vrai, j'ai fini, moi j'ai passé ma.
C'est bon, c'est deux matchs, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est deux matchs. Ouais.
Ah, le deuxième, c'est
donc vous serez sur le banc.
Je suis désolé, Max, dans tous les cas, le coach.
Alors, on l'a vu au match précédent contre Saint-Denis, que Philippe Clément soit sur le banc ou non, on l'entend.
Hein, ah oui, ça c'est vrai, ça, vous pouvez pas louper.
Après, à Dive, il y a une proximité, on est très très proche des bancs, et pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est moi qui ai demandé il y a maintenant 20 ans, parce qu'avant il y avait une piste, et vu que j'étais responsable d'installation sportive sur la ville de Dives, j'avais demandé à ce que les balustrades soient très très proches. Mais c'était une volonté que ça fasse un peu un stade à l'anglaise. C'est aussi pour ça qu'on a l'hymne de Liverpool avant de rentrer dans le stade, hein, donc on met toutes les conditions pour faire croire qu'on est dans un grand stade. Mais oui, je serai sur le banc et tant mieux, parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de frustration quand même quand on est sur le côté. Alors des fois c'est pas plus mal, parce que ça évite peut-être des fois d'être trop excessif, même si là j'avoue que plus on allait dans le temps,
bon, la main courante de Ortega s'en rappelle encore un petit peu quand même,
et mon pied aussi d'ailleurs.
Bah, il était en procès cristalline.
Donc non, c'est un bonheur d'être proche des joueurs et proche du staff aussi, parce que j'aime bien être avec Julien.
Ouais, ouais, parce qu'on précise, hein, c'était suspendu de bande touche, mais également d'accès aux vestiaires et compagnie. Donc, enfin, il y avait un flou, mais du coup, il n'y a pas de risque de prise sur cette.
J'ai pas voulu prendre de risque. Et puis je me suis dit aussi qu'à un moment donné. Sur le côté, bah, c'était quand même Julien qui coachait quelque part.
Julien Le Pen,
et,
du coup.
Voilà, et je voulais. Et je voulais. D'ailleurs, j'ai bien fait, hein, parce qu'il a été très pertinent à la mi-temps. Il a trouvé les mots justes et il a recadré à la fois tactiquement et mentalement. Donc, et moi, j'étais tout seul dans mon bureau à parler un peu tout seul. Alors, je parlais pas tout seul parce que j'ai le cadre de mon père. Donc, je lui parlais en me disant putain, on est mal mené, mais j'espère que ça va aller mieux. Et puis, je sais pas, bah, lui, la bonne étoile, il a fait ce qu'il fallait pour la deuxième.
Max, on a évoqué du coup ce stade Heurtematt qui sera guichet fermé d'ailleurs mardi soir pour votre rencontre. Qu'est-ce qu'il a de différent avec cette ambiance un peu de stade à l'anglaise? Est-ce qu'il vous pousse? Est-ce que le public vous pousse justement pour aller chercher ces résultats?
Ouais, comme tu le dis très justement et comme le coach y a fait référence, le fait des mains courantes assez proches de la ligne de touche, ça fait déjà qu'on entend tout. Là où dans certains stades, même si on veut faire abstraction, dans certains stades, on peut faire abstraction parce que c'est des paroles lointaines, donc c'est très facile de sortir de ça. À Div, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on est adversaire, dans le sens où notamment notre côté, ce que je dirais de deuxième mi-temps, qui va vers l'entrée du stade, dès qu'il y a une échappée, un ballon en profondeur, tout de suite on sent l'engouement et le soutien, une belle caisse de résonance, et je pense qu'inconsciemment ça joue, en plus pour les joueurs de champ et notamment nos joueurs offensifs, mais ça rajoute un supplément d'âme. C'est-à-dire que bizarrement, je pense que un joueur qui est pas spécialement rapide, il va aller plus vite. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais
Mais tu trouves que l'équipe est plus performante quand on attaque de ce côté. Donc en fait, quand on sort du tunnel, c'est le côté à gauche, c'est bien ça. C'est là le côté où il y a la buvette, où il y a la majeure partie des supporters aussi qui sont là. C'est le côté du banc de touche aussi, si je me trompe pas, du Messieurs Div. Et c'est là, je sais pas si c'est un hasard, mais c'est là où vous avez inscrit les deux buts contre Saint-Denis, avec 0-0 à la pause. Donc ça corrobore un peu ce que tu viens de dire. Je trouve que l'équipe est meilleure. Et d'ailleurs, si je me permets, dans le vestiaire, tu l'avais souligné à Saint-Denis que c'était votre côté, entre guillemets, et que c'était là que vous alliez faire la différence.
Ah ouais, moi ça fait 9 ans que je suis là et ça fait 9 ans que je le perçois comme ça. Je trouve que nos attaques n'ont pas la... Ne font pas le même bruit dans l'autre sens. Après, bon, c'est peut-être aussi des contextes de match où peut-être des fois on est mené, donc voilà. Mais je c'est un avis ultra personnel, mais ouais.
On en reparlera du coup mardi soir sous les coups, 20h45, donc ça fait quoi, 23h. Une petite séance de tir au but, deux parades, ça fait quoi, 23h15. Tu t'es déjà entraîné un peu avec Saint-Lô, du coup, t'en avais sorti un, je crois. C'est ça.
Ouais, je m'entraîne avec mes coéquipes. Comme je pense beaucoup de clubs, on a chaque veille de match de Coupe de France, on a la traditionnelle séance de tir au but. Ça permet de réviser ce geste technique, cette frappe qui est un geste technique.
Et est-ce que vous avez de quoi préparer une éventuelle séance de tir au but en analysant peut-être les tirs, les pénaltys frappés par les joueurs depuis?
Moi, je fais, même en championnat, actuellement, j'essaie d'aller choper le plus d'infos possible sur ce que je peux trouver via différents canaux. Du YouTube, du Twitter, tout ce qu'on veut. Je pense que à ce niveau-là de compétition et les joueurs qu'il y a en face de moi... Enfin, qu'il y aura en face de moi, ce sont des joueurs qui sont capables de changer leur geste au dernier moment, ce genre de choses, parce que peut-être, une certaine habitude de travail et l'habitude de ces gros rendez-vous. Donc, je voyais encore là, le gardien de l'équipe d'Angleterre qui a sorti un penalty à Haaland. Sur sa gourde, c'est simplement marqué des statistiques et de la probabilité. Et je pense que ce sont des données qui sont complètement biaisées à ce moment-là de la compétition.
Une victoire au tir au but, vous prenez, Philippe ?
Ah oui, bien sûr. Alors j'avoue qu'en termes de stress, c'est terrible. Il n'y a rien de pire. Alors, je vais contredire Max parce que il a dit qu'on tire les pénaux comme de chaque veille de match en Coupe de France, comme tout le monde fait et comme nous on aurait pu faire depuis 25 ans. Sauf que c'est la première année où j'ai justement fait une séance de tir au but à chaque veille de match de coupe parce que je me suis dit qu'à un moment donné on le faisait pas. Et que c'est vrai que c'est un geste qui peut aussi se travailler, ça reste assez technique quelque part. Donc plus on en met quelque part et votre cerveau le mémorise, et c'est peut-être plus facile après, malgré l'émotion, parce qu'après entre tirer le vendredi et tirer le samedi devant 2000 personnes, et puis vous avez la qualif au bout pour un huitième de finale, c'est forcément différent. Mais bien entendu qu'une victoire en penalty, je prends, malgré que ce soit très stressant.
On va terminer un petit peu, juste, j'ai envie de dire, Philippe, est-ce que tu peux nous dire un mot de Max ? On a dit, vous êtes deux personnages emblématiques du club. Max, ça fait donc 9 ans hein, qu'il est là, c'est le deuxième joueur le plus ancien de l'effectif, derrière Aurélien Thauris, hein, qu'on citait tout à l'heure. Voilà, il y a quelques gardiens quand même qui sont arrivés en l'espace de 9 ans au SU Div Cabourg, mais il n'y en a jamais aucun qui lui a pris la place de numéro 1. Qu'est-ce qui représente à tes yeux au sein de ce groupe?
Alors Max, il représente, d'abord c'est un garçon que j'ai découvert hein, il y a 9 ans, parce que je le connaissais pas plus que ça. On l'avait battu 2-3 fois quand même en Coupe de France avec Verson.
C'est vrai.
Et Thomas Lavallée d'ailleurs lui avait mis une petite pichenette, il me semble.
Roulette,
ouais d'ailleurs. Et j'ai découvert un personnage comme moi je les aime, c'est-à-dire assez atypique, avec un vrai caractère, pas caractériel, hein, je dis bien, vrai caractère. Un garçon qui se construit tout seul, le gardien s'est construit aussi un peu tout seul d'ailleurs, parce que quand il est parti de Malherbe, ça pouvait être un échec, hein, comme tout gamin, comme on a vécu, quand t'es pas gardé, à un moment donné, tu peux plonger. Alors lui, il a plongé, mais comme il fallait dans le but, mais et il s'est construit après tout seul parce que pas spécialement continué les études, mais c'est un garçon très cultivé, un garçon très intelligent avec une grande maturité très tôt. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu viens de dire avec les gardiens qui sont passés à Dives, ce sont des très bons gardiens. Il n'y a pas de problème là-dessus, techniquement, tactiquement, il n'y avait pas de. Mais par contre, ils sont mangés par la personnalité d'un Max qui lui a toutes les caractéristiques d'un gardien. Pour moi, un gardien, c'est un sport quasiment à part. Souvent, j'interviens pas trop, moi, à ce poste-là. J'aime discuter justement avec le gardien pour essayer de comprendre, parce que est-ce qu'il doit y aller, pas y aller, est-ce qu'il doit sortir, pas sortir, je sais pas. Et lui, il a une carapace, il a une capacité à occulter la pression. Et Dieu sait, sur un poste comme ça, combien c'est important. Je l'ai vu faire quelques bourdes, hein, pas beaucoup, mais aussitôt, il était capable de rebondir. À chaque fois que je lui ai mis un gardien dans les pattes, je le connais parce qu'il fait l'insensible, mais c'est pas le cas. C'est un garçon très très sensible quelque part, mais ça le rend encore plus fort. Donc voilà, parce que il est capable de se relever dans sa vie professionnelle et autre, ou dans sa vie perso, parce que comme je le dis, il part de loin, mais il est capable d'aller chercher plein de choses pour se construire en tant qu'homme et en tant que gardien. Donc ça fait de lui un super mec malgré sa grande gueule parfois où je suis obligé de le faire taire.
Mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Mais voilà, c'est ça. Des fois, il manque un peu de pédagogie parfois et de psychologie avec des jeunes. Alors, je suis obligé de lui rappeler que le jeune d'aujourd'hui est pas plus con que celui d'il y a 30 ans ou 100 ans. Sauf que c'est des générations un peu différentes et ça n'empêche pas que ce sont des bons gamins. Mais lui en est un et un très bon gardien. Donc, ça nous va bien, nous aussi, à Dives, que de l'avoir avec nous.
Hein. D'accord. Max, est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour finir sur ton coach, du coup, que tu côtoies depuis 9 saisons?
En arrivant à Dives, j'avais 24 ans. Je t'avouerais que je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Hein. Je me laissais un peu border là où le vent allait m'amener. Et la rencontre avec le coach, sa femme aussi, parce que Virginie, j'ai travaillé pour elle aussi, donc tu vois les mains tendues à Dives sont multiples.
T'es très impliqué dans le club, hein.
Oui, Virginie qui fait un job remarquable, elle est quasiment aussi présente que tous nos bénévoles, donc c'est
le coach.
Et que le coach aussi, ouais. Elle bosse plus que lui.
fallait pas le dire.
Et tout de suite, bon, de toute façon, quand on arrive à Dives, on sent, pour quelqu'un qui est un minimum cortiqué, on va tout de suite sentir l'importance du parcours de Philippe au sein du club, hein, de là où il a pris le club et là où il l'a emmené. Il n'a pas fait ça tout seul, il a été aidé, il le rappelle souvent. Mais je pense que derrière, il a, pas qu'avec moi, hein, mais avec, il a un impact sur chaque joueur qu'il a pu rencontrer. Je suis pas sûr, sur les 9 ans que j'ai fait à Dives, en ayant côtoyé des joueurs qui soient partis ou qui soient encore là, avoir eu des mots... on va dire négatif ou peu élogieux sur le coach. Et d'ailleurs, je pense que ça vient de son fait, dans le sens où lui nous le répète tout le temps, il peut ne pas être d'accord avec le joueur. Il peut se fâcher avec le joueur, mais il ne pourra jamais se fâcher avec l'homme, à moins d'être vraiment très très imbécile. Et pour le coup, moi, à titre personnel, Philippe, il a, de par les nombreuses discussions qu'on a pu avoir, mais de manière totalement désintéressée sur plusieurs sujets, que ce soit la vie, que ce soit le job, que ce soit les manières de vivre, il y a les différents états d'esprit qu'on peut les différentes choses qu'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit une déception amoureuse, que ce soit la perte d'un proche, il a toujours un mot qui permet de prendre du recul et de rationaliser un peu les différentes approches qu'on peut avoir par rapport à ces choses-là. Et concrètement, ça va faire 9 ans, et je pense que j'ai un peu corrigé le tir par rapport au parcours que certaines personnes que je connais m'auraient prédestiné, c'est en partie, je pense, grâce à ces mots et grâce à ces gestes. Donc c'est pour ça que j'ai juré fidélité à Philippe et à Div, jusqu'à ce qu'au jour ils me disent tu faisais référence aux autres gardiens, jusqu'à qu'il y ait un gardien qui me passe devant. Pour l'instant, je suis très égoïste, j'ai pas envie que ça arrive, et je ferai tout pour, et puis le jour où ça arrivera, j'essaierai de rendre à Philippe et à Div ce qu'ils m'ont donné, donc en accompagnant le gamin qui, pour eux, sera plus efficace que moi.
Et bien voilà, une belle manière de conclure cette émission, merci à tous les deux. Je rappelle donc que le match SU Div Cabourg contre le Puy Foot 43, c'est le mardi 14 janvier, coup d'envoi 20h45. Évidemment, on vous souhaite bonne chance pour ce match. Et est-ce qu'on se donne rendez-vous pour un deuxième épisode si vous gagnez ?
Avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Et bien alors, le rendez-vous est pris. Merci aussi Mathieu.
Merci
pour,
à toi.
Pour suivre les coulisses, l'avant, l'après, le pendant de cet affrontement historique, on vous retrouve sur Foot Normand. Et puis évidemment,
on va
merci.
Avoir une petite laine quand même, hein, je pense, hein, parce qu'il risque de faire froid mardi.
Il n'y aura pas de flotte, mais a priori, mais il fera froid.
Hein. Il fera froid, ouais.
Merci à tous d'avoir suivi ce podcast 100% Coupe spécial SU Div Cabourg.